Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Crème de la Crème. On est ensemble pendant une heure qui nous emmèneront au cinéma. Tout à l'heure grâce à la chronique Un fauteuil pour deux, septième du nom. Ce sont Antonin Moreau, chargé de programmation du cinéma Arvor, et Éric Gouzanet, directeur du même cinéma Arvor, qui nous parleront de quelques films, The Thing de John Carpenter, et puis aussi Syndrome des amours passés, L'air de la mer en libre, et puis Jawan, quelques séances qui arrivent très vite au cinéma Arvor, quelques places à vous offrir sur canalb.fr pour L'autre Laurence, pour Syndrome des amours passés et pour Jawan. La session Info Concert nous emmènera du côté de la ferme de Quincé pour la soirée de clôture de saison Ciao les Quinceaux, ça avec Baston, FC Déception et Orphelin Féline. Pour terminer la session Info Concert, nous irons au Jardin Moderne pour retrouver les vétérans post-punk parisiens Frustration qui joueront avec en première partie la Rennaise Argalouve. Avant ça, nous aurons entendu La Machine à remonter le son qui s'arrêtera une deuxième fois en 1983, et puis on entendra un extrait de notre album disque d'or de la semaine, Suzanne Chani et Jonathan Fitoussi, et l'album Golden Apples of the Sun, un album très synthétique. On commence Crème de la Crème avec du funk instrumental un peu cosmique, un peu science-fiction, 13 illustrations sonores, c'est Cold Sender, je vous en reparle juste après. Vous aurez entendu ce titre, Midnight at Baker. Bonne émission. Pas la première fois que je vous diffuse Cold Sender. C'est un duo de musiciens, l'un anglais et multi-instrumentiste Paul Elliott, et puis l'autre américain également multi-instrumentiste, il s'appelle Michael Reed, et ensemble eh bien ils ont conçu un album qui arrive bientôt, l'album Lost to the Storm. Il arrivera le 27 octobre pour le label True Thoughts, et c'est un choix d'album si je peux en juger par les quelques titres que j'ai déjà entendus, notamment celui qu'on entendait à l'instant, le titre Midnight Baker, et puis celui qui va suivre, Lost to the Storm. On imagine un film de science-fiction mêlé de policiers et qui peut-être nous emmènerait dans les bas-fonds d'un Los Angeles du futur où les clubs discothèques sont envahis par les drones. Allez savoir. En tout cas, on écoute Lost to the Storm, toujours par Cole Sender. C'est pour True Thoughts et l'album, je vous le rappelle, sort le 27 octobre. We'll be right back. C'est un extrait de l'album Golden Apples of the Sun, qui est un renvoi direct à Silver Apples of the Moon, un album de musique électronique révolutionnaire créé par Morton Subotnick. Vous entendiez à l'instant Susan Chiani, grande pionnière des musiques synthétiques et des synthétiseurs Bushla notamment, et puis Jonathan Fitoussi, qui se sont croisés à plusieurs reprise entre Paris et puis la Californie, plus précisément le petit village de Bolinas en Californie. Vous avez la possibilité de découvrir sur cet album des rencontres synthétiques qui évoquent le cosmos et qui nous font rêver vraiment et voyager en même temps. Très bon album pour Susan Chiani et Jonathan Fitoussi, c'était le titre Timelapse. À suivre, La Machine à remonter le son numéro 40. Et pour la deuxième fois, on s'arrête en 1983. À tout de suite.
Mission Control to Ariane, do you read me? Mission Control to Ariane, do you read me?
I read you, Larry, loud and clear. Things are pretty quiet up here. This is Max and these are the facts.
Okay, Max, relax. What's your position?
I'm over the moon, but I'm feeling low. I couldn't reach my projector. My navigator has ejected me.
What seems to be the problem?
I can't stabilize my orbit. I can't hide my computer.
Have you checked the ionizer?
No, excuse me.
Okay, Max, over and out.
Doves come bearing gold. The history. mystery unfolds. Nobody eyed the Beckham long and lost within the coffin darkness. Sing to me this tragic song of lust and lost awakenings.
Max!
The problem is, you see, I've lost my heart for the glamorous colonel Fifi. Larry, I begin to form a plan.
Now, Max, don't do anything rash. Max! Max! Colonel Lafayette, it's an emergency! Mission control to Ariane, come in, please!
No need to worry, Mr. Stone. My superior reflectors and navigating skills have borne us safely through the immediate danger. I have regained optimum velocity and we are proceeding to our own destination.
But Colonel, you have to know that Max is nothing more than a computer program. An alternate one.
Joking, Larry?
Jokes, I love jokes.
This is most irregular. It is forbidden to monitor my transmissions, Captain.
Max, get off the line.
Fifi, be mine. You cannot mention the tears I've cried. I switch to manual override.
This half-baked piece of hardware could blow us all into the next galaxy. Larry, I'm scared.
Darling, we can be together for all eternity. Come with me, my darling. Come with me.
Get me out of here. Get me out of here.
I kiss your hand. That's exactly what I planned.
No. No. Not the ejector tube.
En 1974, c'était la création du groupe The Honeymoon Killers, qu'on peut traduire, et oui, par les tueurs de la lune de miel. D'ailleurs, ils vont jouer assez régulièrement entre les deux traductions, en anglais et en français. Un groupe belge qui a compté dans ses rangs Véronique Vincent, et puis aussi Mark Hollander, et qui ont bien bien secoué toutes leurs influences, hein, de Kraftwerk à Charles Trenet, en passant par... France Gall et puis la conquête de l'espace. Vous entendiez à l'instant le titre Deep Space Romance. À l'origine, c'était sorti en 1981 dans l'album des Tueurs de la Lune de Miel, mais ils reprendront eux-mêmes leurs morceaux et en donneront une version anglaise sur un maxi intitulé Subtitled Remix. Et de Ariane, titre originel du morceau qu'on écoutait à l'instant, il se transformera quelques années plus tard, en 1983, en A Deep Space Romance. Très chouette ce titre-là, et tout est bon chez les Honeymoon Killers et chez les Tueurs de la Lune de Miel. À suivre, escale au cinéma Arvor avec Antonin Moreau, chargé de programmation, et Eric Gouzanet, directeur du cinéma.
Le comité d'organisation de l'industrie cinématographique vous demande de ne pas fumer afin de ne pas obscurcir l'atmosphère. Ne vous plaignez pas, la projection sera plus claire et vous ferez ainsi des économies forcées sur votre ration. Enfin, vous serez galant, pensez à vos voisines. Madame, rappelez-vous qu'il est interdit d'amener au cinéma des enfants de moins de 3 ans. En cas d'alerte, suivez les conseils de la direction. Amis de l'écran, merci.
L'an dernier, nous avons initié dans l'émission Crème de la Crème, eh bien, une chronique Un fauteuil pour deux. Alors, n'y voyez pas de malice de ma part. Hein, ils n'ont pas le même poste, tous les deux, Eric Gouzanet et Antonin Moreau, au cinéma L'Arvor. Bonjour à vous deux.
Salut Yann.
L'un Bonjour Yann.
Et directeur, c'est Eric, et l'autre est chargé de programmation ou même Cinéma Arbor, c'est Antonin. Et tous les mois, à peu près, vous venez nous parler de quelques films qui nécessitent qu'on les mette un peu plus en avant que d'autres. Parfois, on les connaît déjà presque par cœur, certains qui y sont évoqués. Et comme par hasard, c'est ce que nous propose de découvrir à nouveau Antonin Moreau. Là, c'est vraiment de...
Ouais, c'est moi, je vais faire du fric. Moi, je passe que des films que les gens connaissent par cœur.
En tout cas, casquette à réessai dans les deux cas, il n'y a pas de problème puisque les cinq salles de l'Arvor, désormais derrière la gare, bon, je pense que ça y est, nos auditeurs sont bien au courant de là où se trouve le cinéma. J'ai des amis anglais qui étaient à Rennes il y a quelques semaines. L'Arvor n'est plus rue d'entrain.
Sorry.
C'est pas arrivé de l'autre côté de la Manche encore. Aujourd'hui, vous allez nous parler tous les deux de quelques films en séance unique et en sortie nationale aussi. Vous entendrez parler dans un instant de The Thing de John Carpenter par Antonin Moreau, et puis tout à l'heure Eric, tu nous parleras de Syndrome des amours passés ainsi que de L'air de la mer rend libre, film tourné à Rennes.
Tout à fait.
Et puis Antonin, tu termineras avec ta marotte nouvelle. Alors ça fait quelque temps peut-être que tu tombes pour le cinéma indien qui n'est pas que de Bollywood, hein, parce qu'il n'y a pas que Bollywood en Inde non plus. Mais on va commencer par un film que peut-être certaines de nos auditeurs auditrices ont déjà vu, c'est probable. En tout cas, si c'était le cas ou si ce n'était pas le cas, je le remets en tête un petit peu le thème du film et puis tu nous en reparles juste après. Imaginez une base dans l'océan Arctique ou Antarctique,
l'Antarctique.
Je ne sais même plus, c'est l'Antarctique. Imaginez des hommes et des femmes aussi peut-être, non, que des hommes bien sûr. Des animaux quand même, si bien sûr, ils sont tous bloqués complètement. Et puis se passe quoi ? Se passe une sorte d'épidémie. On est dans la paranoïa, on est dans le cinéma de John Carpenter en plein, c'est The Thing, avec une bande originale qu'on entendait à l'instant et assez surprenant d'ailleurs.
Bah oui, parce que c'est une bande musicale signée d'un compositeur relativement célèbre, Ennio Morricone, et ce qui est toujours hallucinant, c'est que ça ressemble quand même foutrement à une bande originale d'un autre compositeur célèbre qui est John Carpenter, qui signait, comme beaucoup le savent désormais, ouais, les bandes originales de la plupart de ses films, avec à base de nappes de synthé, quelque chose de très voilà, des petites nappes comme ça. Et là, on dirait vraiment ça, quoi.
Il a réussi à convaincre le maître italien de jouer un peu comme si c'était lui qui faisait la déo, quoi.
Bah ouais, alors à part si peut-être que Morricone, admiratif du travail de musicien de John Carpenter, s'est plié un petit peu à l'exercice de style. Et puis Morricone, on sait que quand il y a des exercices de style à faire, il est brillant de toute façon. Donc, et c'est vrai que je connais pas trop la petite histoire derrière la composition de cette musique, mais toujours est-il que oui, c'est vraiment c'est une superbe musique, quoi.
Alors un film qui est un remake.
Ok, un remake, tout à fait.
Vaguement.
C'est un remake d'un film de Howard Hawks qui était l'adaptation d'un bouquin de science-fiction, un petit classique, quoi. Et Howard Hawks, là où c'est intéressant, c'est qu'Howard Hawks est vraiment le cinéaste un peu séminal pour John Carpenter, parce que John Carpenter a toujours tourné autour de la filmographie de Howard Hawks. Assaut étant un remake de Rio Bravo, quelque part. Il y a une dimension western très forte chez les films dans les films de John Carpenter. Et donc, The Thing, est très éloigné du film de Howard Hawks et de Christian Ibis. C'était une co-réalisation qui est un film de science-fiction qui est regardable, mais qui est quand même assez classique et très convenu pour l'époque. On est vraiment sur du film de monstre un peu classique. Là, The Thing, c'est plutôt, c'est un scénario qui va plus dans une horreur moderne. Hein. C'est vraiment pour moi, je suis pas le seul, un des plus grands films d'horreur de l'histoire du cinéma. Et c'est un film d'horreur, en tout cas, qui va dans qui est de l'horreur moderne. Dans dans le sens où bah, le monstre est invisible. C'est la différence, en fait, quelque part, avec le cinéma d'horreur classique, avec un monstre qu'il s'agit d'éradiquer pour rétablir une sorte de norme. Là, bah, le monstre, on ne le voit pas. Le monstre, au contraire, s'immisce, contamine quelqu'un qui va comme bah, de devenir lui-même le monstre, mais en gardant une sorte d'apparence humaine. Donc, la paranoïa s'installe, se distille partout, et on ne sait pas qui est de ce qui est de l'ordre de l'humain ou de l'inhumain. Et c'est un film qui est effectivement bah, très noir, très désespéré, qui commence dans une scène de désolation totale où dès les premier plan, moi je me rappellerai toujours la première fois que j'ai vu ça à la télé, dès les premiers plans tu dis mais oh, là j'ai déjà peur, alors que c'est juste une étendue de neige avec un chien qui court, un hélicoptère, tu dis mais il y a un truc pesant, c'est habité quoi.
Peut-être un petit peu comme l'intro de The Shining aussi.
Oui, bah oui, il y a un peu de ça, c'est dû à ça. Alors c'est un film, c'est intéressant parce que c'est un film qui a été un échec absolument cuisant à sa sortie, hein. C'est un film qui est sorti en 82 je crois, et il est sorti à peu près au même moment, enfin, au début des années 80 déjà, au moment où le cinéma américain il change un petit peu, ça devient un petit peu plus léger, la production hollywoodienne, et ce film-là n'étant pas du tout léger, mais au contraire très noir, bah les spectateurs n'y vont pas et lui préfèrent un film qui sort peu de temps après, qui met aussi en scène un extraterrestre qui arrive sur Terre, qui est E.T., l'extraterrestre de Steven Spielberg, qui est aussi un grand film, mais qui est assez différent de The Thing quand même. Et c'est vrai que c'est un film qui a absolument pas marché, mais à tel point que ça a ruiné psychologiquement John Carpenter, qui considère toujours que c'est son chef-d'œuvre, qui a mis toutes ses forces. Il n'était pas le seul, hein. Il y a aussi le concepteur des effets spéciaux qui fait un travail incroyable, hein, Rob Bottin, où tous les effets spéciaux physiques du film, c'est-à-dire que des animatiques, de la robotique, du maquillage, sont hallucinants. C'est un film à la fois qui montre l'horreur, qui montre des scènes très très gore, qui joue sur le hors-champ et au contraire sur le champ, c'est-à-dire ce qu'on va voir comme quelque chose de spectacle un peu gore, grotesque, presque proche de Jérôme Bosch des fois dans ce qu'on voit. C'est un truc assez fou. Mais lui-même, le concepteur des effets spéciaux, a fait une dépression nerveuse qui a duré 6 mois après le film, parce que c'était juste intenable. Et John Carpenter, c'est très drôle de voir des photos de lui avant The Thing avec ses longs cheveux noirs. Après The Thing, il a les cheveux blancs, il a la tronche qu'on lui connaît aujourd'hui. Et il a été vraiment très, très affecté par l'échec de ce film-là.
On se rassure quand même, les spectateurs, les spectatrices du film n'auront pas les mêmes transformations physiques après.
Bah on espère toujours que le cinéma garde un impact. Moi, si les gens perdent tout la coloration de leurs cheveux, c'est super.
Découvrez-le ou redécouvrez-le. En tout cas, il est projeté à ce film de John Carpenter, The Thing, ce mercredi. Ouais,
un petit mot, si je me permets, parce que c'est dans le cadre d'une programmation qu'on a inaugurée l'année dernière, qui s'appelle Faites le Mur, qui est un ciné-club à destination en premier lieu des lycéens internes, qui est une programmation qui est faite conjointement avec une étudiante, Clémence Olivier, qui intervient aussi dans ton émission.
Qui intervient dans l'émission, qui propose la chronique Les yeux dans la tête,
voilà,
tous les mois.
Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, qui nous propose pendant toute l'année ce rendez-vous mensuel, et qui va tourner toujours autour de films sur le motif de la peur, des films d'angoisse. Et on se retrouve dès le mois prochain avec Scream, par exemple.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. Et ce faisant, d'en assumer totalement l'apparence physique. Ceci, par exemple, n'est pas un chien. C'est une imitation. Nous avons tué la chose avant qu'elle ait pu finir.
Finir quoi ?
Finir son imitation de nos chiens.
Ah ah, ce n'est pas un chien, c'est une imitation de chien. Allez voir des imitations de chiens, et puis peut-être aussi des imitations d'humains dans The Thing de John Carpenter ce mercredi 4 octobre. Un autre film qui lui aussi est peut-être un film d'horreur, Syndrome des amours passés. Je ne l'ai pas vu du tout, donc je ne sais pas si c'est un film d'horreur du tout.
Bah,
sans
pas
doute
du pas. Tout.
Sans
pas
doute
du
pas.
Tout. Donc, si vous... C'est au même moment pratiquement, puisque la séance de Thing c'est à 19h45. Donc et l'avant-première, puisque c'est une avant-première, on aura le plaisir d'accueillir Anne Sirotte, qui est la co-réalisatrice, puisque le film a été écrit à quatre mains avec son compère Raphaël Balboni, pardon. Donc c'est leur deuxième film après donc Une vie démente, qu'on avait aussi le plaisir de proposer, qui parlait de l'Alzheimer. Et là, ils sont partis sur un couple, la quarantaine, vois bien mon collègue Antonin, comment qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc se pose la question, comment faire? Et ben un psychologue les invite à refaire le chemin en marche arrière, d'aller voir en fait leurs amours passés. C'est cocasse, c'est drôle.
Et d'avoir des relations sexuelles avec eux.
Alors, oui. Je finis. Ah, continue.
Je te grille tes cartouches.
Je continue. Et donc, oui, d'avoir des relations sexuelles qui sont inventives, qui pourraient donner des idées à certains, d'ailleurs. Voilà, c'est accompagné. Visuellement, c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai découvert le film à Cannes, puisqu'il était présenté à la semaine de la critique. Et puis, on rencontre Afkaé qui précède, qui devance le festival. Donc voilà, c'est l'humour belge qu'on retrouve aussi, décalé, les acteurs sont magnifiques, le thème, ben, c'est drôle, parce que ben, moi, qui est un peu plus âgé que leur, qui est un peu plus de la quarantaine, ben, bien sûr, j'ai retracé un peu, ah ben oui, comment, j'ai eu des enfants, pas eu de problème, mais bon, ça, voilà, ça vous invite aussi à faire un peu un regard sur le passé. Et puis, plastiquement, c'est vrai que leur parcours, comme ils le détaillent sur un mur, et je vous en dirai pas plus, voilà, demain, elle est là, venez nombreux.
Et c'est une comédie.
Et c'est une comédie, contrairement à The Thing. Donc, si vous êtes angoissé avec The Thing, vous avez une demi-heure pour changer de salle.
Hein. Parce qu'il y en a, voilà. Il y en a assez peu des comédies.
C'est vrai que c'est pas fréquent. On a eu Yannick cet été, hein, qui est toujours à l'affiche d'ailleurs, et qui marche bien, qui est drôle. On peut le dire. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément notre tasse de thé, mais ça arrive de temps en temps et c'est toujours risqué. Alors, est-ce que ça va rencontrer son public, voilà la question.
Il est montré en avant-première, donc Le Demain. Syndrome des amours passés de Anne Siro et Raphaël Balboni. C'est à l'Arvor que vous le retrouverez. On vous offre des places en ce moment sur canalb.fr, non pas pour cette avant-première, mais pour la sortie qui arrive dans quoi, une dizaine de jours?
Huit jours. Enfin, le mercredi suivant.
Retrouvez en tout cas évidemment toute la programmation de l'Arvor sur cinéma-arvor.fr. On continue à discuter cinéma et cinéma actuel avec Eric Gouzanet qui va nous parler cette fois-ci de L'air de la mer rend libre de Nadir Moknesh qui a été tourné, tu me le disais tout à l'heure, à Rennes. Alors, on en connaît des films, Les Beaux Gosses par exemple,
on n'est pas forcément
tout à fait dans la même optique. Est-ce qu'on est censé reconnaître la ville d'ailleurs? Est-ce que c'est important?
Complètement, Nadir Moknesh qui est un réalisateur né en France mais qui a passé son enfance en Algérie. Donc c'est son 6e film, il a tourné Viva l'Algérie, je ne sais pas si ça vous parle, mais qui avait fait le film, c'est son 2e film, qu'il avait donc fait connaître aux yeux des Français. Qui avait été tourné à Alger, il a tourné à Tanger, d'autres films, ou dans le sud de la France, et là il a posé sa caméra à Rennes. Alors pourquoi? Parce que les sociétés de production sont à la recherche de financement, les régions aujourd'hui contribuent donc à aider la création audiovisuelle et cinématographique. Il y a des régions très dynamiques, et la Bretagne en fait partie, parce qu'il faut remarquer que c'est le 5e film que l'Arvor va présenter cette année, qui a été tournée en Bretagne, en région, La Grande Magie de Noam Wiedowski. On a eu aussi Avant l'effondrement, et puis les fameuses algues cet été. On ne pouvait pas les tourner ailleurs, de toute façon, celle-là. Et donc, Nadir a obtenu un financement, a fait un peu le tour de Rennes, et puis il a trouvé ça très inspirant. Et donc, il est vraiment tourné en grande partie à Rennes, et contrairement aux Beaux-Gosses, où on connaît, nous, Rennais, bien sûr, certains lieux, notamment les Horizons. Lui, il affiche vraiment l'envie d'inscrire son Rennes dans son décor, comme une actrice. On sait qu'on est à l'Hôtel de Ville, on sait qu'on est rue Hoche, on sait qu'on est place de la mairie. Et donc, voilà, ça fait un peu découvrir notre ville à travers ce film. Alors, le film, on y parle mariage forcé, on y parle homosexualité entre un jeune. D'origine maghrébine, donc les familles sont musulmanes, donc tout ça comporte un peu de non-dit, de tension, l'homosexualité étant un peu tabou, ou complètement tabou d'ailleurs, donc ça nous fait coup, voilà, on m'avait dit que le film était fauché. Ça se voit pas à l'écran. Je trouve qu'il y a quand même une certaine réussite et puis une fin qui nous donne d'autres horizons.
L'air de la mer rend libre. Donc...
Un titre, je dirais, un peu tordu. Quand
ouais. Pourquoi il n'y a pas de scène de résolution finale à Dinard où tout se passe bien et,
Je te laisserai aller voir.
On verra bien. On verra
ne spoile
bien.
Pas. On et c'est peut-être pas. La mer, Madame Appéré, peut-être.
On ne sait pas. Nadir Moknesh, en tout cas, réalisateur de cette ère de la mer en libre, a montré, eh bien oui, ce mercredi, c'est la sortie nationale, vous l'avez eu
c'est
en
la sortie
première.
Nationale, et donc il était là dimanche pour une très belle rencontre, on a eu, voilà, avec le public.
Mais quand non. Quand non. पता नहीं मां को किया वादा हूं ये अधूरा एक इरादा हूं मैं अच्छा हूं बुरा हूं पुण्य हूं या पाप हूं ये खुद से पूछना क्योंकि मैं भी आप हूं लेडी तो सुना होगा
Thunder with King Khan, bullets rain down like a thunder. Ready or not, she got the Glock, she'll put you under. You know we game time on the front line till it's over. Deep in the trenches for ya, like a soldier.
ये तो शुरुआत है. Good to go, girls.
Ready, chief.
Alors j'espère évidemment qu'il y a outre cette ambiance de cinglé de film d'action 100% action évidemment qu'il y a aussi des scènes de danse mais oui il y en a qu'il y a des scènes de chant mais oui
évidemment.
Il y en a des scènes d'amour ben forcément il y en a aussi il y a tout un peu c'est normal c'est du cinéma indien c'est Jawan de Ali Kumar vous avez sans doute quelques-uns d'entre vous qui nous écoutez en ce moment découvert le cinéma indien récent avec R je crois R bon bah il y a pas que celui-là évidemment ça envoie pas mal c'est sûr et L'Arvor a envie de vous en montrer d'autres de ces cinémas contemporains d'Inde. Alors, est-ce qu'on est à Bollywood, là, Antonin ou
On est complètement à Bollywood. Moi, je n'ai pas encore vu le film, donc je ne vous parlerai pas du film précisément. C'est un film qui a été plutôt un succès assez. Ben, un succès astrosphérique en Inde, mais et assez pas mal en France aussi, où il est passé dans des grands circuits type UGC, Pathé et compagnie. Et il est passé d'ailleurs au CGR, autour de Rennes, à la Mézières. Mais moi, oui, je suis très content de le passer aussi, oui, pour continuer un petit peu le travail qu'on avait commencé à entamer avec Patan il y a quelques mois avant l'été et qu'on a fait aussi le mois dernier avec Rocky Orani, qui lui, du coup, était du cinéma indien contemporain de grands spectacles, hein, extrêmement populaire, mais là, surtout sur l'angle de la comédie musicale et de la comédie dramatique, on va dire, et qui a été une séance extraordinaire. Enfin, moi, je suis très content de ces séances-là et je suis très content d'y assister parce que je trouve que ça fait c'est des expériences cinématographiques qui sont géniales. Je trouve que les films ils emportent, ils t'emportent de toute façon vraiment extrêmement forte par leur générosité, par une sorte d'inventivité formelle qu'on retrouve plus dans le cinéma de grands spectacles américains. Et c'est vrai que voir ces films là, ça nettoie les yeux par rapport à tous les Marvel et compagnie. Moi, ça me ferait vraiment du bien parce que c'est une émotion à laquelle j'ai été biberonné dans ma cinéphilie et chaque fois que je vais revoir des films américains, je suis toujours déçu et j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois et que c'est terne. Là, c'est vraiment super. C'est des films qui sont tellement généreux qu'à côté, Barbie, c'est des films en noir et blanc, quoi. Vraiment, on est
pourtant,
vraiment là-dedans.
Pourtant.
Et ça fait des salles aussi qui sont super. Parce que je sais que la dernière séance qu'on a pu faire là-bas, forcément, c'est un cinéma qui est pas très identifié en France, qui est très identifié dans d'autres pays, notamment des pays arabes. Donc, on a pas mal de la communauté arabe qui vient. On a la communauté indienne qui peut venir en salle aussi. On va avoir des spectateurs art essai classiques qu'on peut avoir à l'Arvor depuis sa création, des étudiants en cinéma qui savent que c'est un peu là où ça se passe, ou des cinéphiles ou étudiants en cinéma qui savent que c'est un peu là où ça se passe en ce moment dans la création esthétique, ou vraiment des innovations majeures. Et donc ça fait des salles hyper bigarrées, et ça réagit bien, quoi. On n'a pas encore des salles où ça danse et tout ça, peut-être que ça viendra. On sait qu'il y a eu des allumages de fumigène dans certaines salles dès l'apparition des superstars du cinéma indien. Là, c'est un film avec une superstar énorme, Shah Rukh Khan, qui est là-bas, qui est l'équivalent d'un dieu vivant, hein, vraiment. On le voyait déjà dans Devdas, si je me trompe pas. Mais voilà, ça va être super, je pense. En tout cas, il faut vraiment voir ça. Évidemment, certains vont avoir le retour comme c'est un petit peu over the top, parce qu'il y a la question de la suspension de la crédulité quand on est devant un film indien. Effectivement, elle se pose. Hein. Si on n'accepte pas la convention, de quelque chose qui est absolument qui est contre la vraisemblance, on peut très bien avoir un refus. Mais ceci dit, quand on accepte ça, c'est génial.
Vous verrez Jawan, donc séance unique. Attention, hein, le 14 octobre. Quelques places vous attendent sur canalb.fr pour ce film-ci projeté à l'Arvor, ainsi que pour le syndrome des amours passés, et puis aussi pour l'autre Laurence. Allez faire un tour donc sur canalb.fr, et puis allez régulièrement du côté de l'Arvor. Merci à vous deux, Eric et Antonin.
Merci, Yann. Merci, Yann.
On va terminer avec le title track de Jawan. Je pense que ça va donner envie encore plus à nos auditeurs d'aller le voir en salle. À bientôt pour un fauteuil pour deux dans un mois, sans doute.
Ouais, carrément. Ouais.
Salut.
À bientôt.
Salut.
la session info concert, nous irons à la ferme de Quincé. Ciao les Quinceaux, ce vendredi 6 octobre. Et puis un concert de frustration avec aussi Argalouve au Jardin Moderne le 13 octobre. Mais d'abord, direction Quincé avec cette soirée. Ciao les Quinceaux, le 6 octobre, où vous retrouverez Baston, Or, Félin, Féline et puis aussi FC Déception. On les écoutera dans un instant, le duo de Saint-Servant, FC Déception. Mais avant ça, on va pouvoir entendre Baston dans un instant, un extrait de leur album La Martyre, un album qui mélange krautrock, post-punk et puis envie de faire revivre quelques fantômes new wave. Vous allez pouvoir entendre dans un instant le titre Zodiac par Baston et puis juste après ce sera le titre Vite par FC Déception, à retrouver les deux groupes le 6 octobre à Quincé. ciao les Quinsos, c'est la fin de la saison à Quincé. Et pour la célébrer comme il se doit, cette fin de saison et ce dernier vendredi samedi de l'année, vous retrouvez une programmation de haute volée. On écoutait tout à l'heure Baston, les Brestois de Baston, et puis à l'instant FC Déception de Saint-Servant. À ne pas rater aussi Orphelin Féline, un drag show rennais. On continue la session avant concert et on la termine d'ailleurs avec ce qui vous sera proposé au Jardin Moderne avec Frustration et Argalouf. On écoute donc Frustration avec lesquels on termine cette session avant concert, le morceau Insane qu'ils joueront peut-être le 13 octobre au Jardin Moderne. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!
Forget the whispers, you will be satisfied.